Chapitre 73. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'ira, sinon toi. Septembre 1996. Les journées de Philippe s'articulaient ainsi depuis toujours. Levé vers 9h, petit déjeuner préparé par Violette, café clair, pain grillé, beurre doux, confiture de cerise sans morceaux, douche et rasage, moto jusqu'à 13h, prendre des chemins de campagne, frôler la mort chaque jour en accélérant là où il savait qu'il n'y avait jamais ni flic ni radar, déjeuner avec Violette. Mortal Kombat, son jeu vidéo, sur la Mega Drive jusqu'à 16-17h. Tour de moto jusqu'à 19h. Dîner avec Juliette. Ensuite, il partait à pied dans la Grand-Rue en prétextant avoir besoin de marcher pour retrouver une maîtresse ou participer à une soirée libertine organisée à l'adresse. Il s'y rendait alors à moto et ne rentrait pas avant 1h ou 2h du matin. S'il n'avait rien envie de faire à cause d'une météo pluvieuse ou d'une lassitude qui le submergeait, il regardait la télévision. Violette restait près de lui, lisant ou regardant le film qu'il avait choisi. Depuis qu'il l'avait surprise avec le gardien du cimetière 15 jours auparavant, Philippe ne voyait plus Violette de la même manière. Il l'observait du coin de l'œil. Il se demandait si elle pensait à ce vieux, si elle lui téléphonait durant ses absences, si elle lui écrivait. Depuis une semaine, quand Philippe rentrait à la maison, il appuyait sur la touche bis du téléphone, mais tombait systématiquement sur la voix désagréable de sa mère, qu'il avait appelée la veille ou l'avant-veille, et lui raccrochait au nez. Un jour sur deux, il devait lui téléphoner. C'était un rituel. Et les mots étaient toujours les mêmes.
« Ça va, mon garçon? Tu manges bien? Tu dors suffisamment? La santé? Sois prudent sur la route. Ne t'abîme pas les yeux sur tes jeux vidéo. Et ta femme? Le travail, ça va? La maison est propre? Elle lave les draps toutes les semaines? Je surveille tes comptes. Ne t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien. Ton père a fait un virement sur ton assurance vie la semaine dernière. J'ai mes douleurs qui me reprennent. Tout de même, on n'a jamais eu de chance. Ah non, vraiment. Les gens sont si décevants. Méfie-toi. Ton père est de moins en moins courageux. Heureusement que je suis là pour veiller sur vous. À bientôt, mon garçon. »
À chaque fois qu'il raccrochait, Philippe se sentait mal. Sa mère était une lame de rasoir qui l'irritait de plus en plus. Parfois, il se demandait si elle avait des nouvelles de son frère, Luc. Son oncle lui manquait, et l'absence de Françoise l'anéantissait. Mais sa mère lui répondait, agacée ou attristée, si elle voulait le faire culpabiliser. « Ne me parle plus de ces gens, s'il te plaît !» Sa mère incluait Françoise et Luc dans le même sac poubelle. À part ces conversations qui le hérissaient, Philippe avait, en apparence, une mécanique de vie parfaitement huilée. Il était resté celui que Françoise avait raccompagné pour la dernière fois à la gare d'Antibes en 1983. Un enfant capricieux, un enfant malheureux. Mais de nouvelles, à 5 minutes d'intervalle, vinrent immobiliser ses jours enchaînés. La première arriva par courrier. Alors qu'il croquait dans une de ses tartines chaudes et croustillantes comme il les aimait, Violette lui annonça que la barrière allait être automatisée en mai 1997. Ils avaient 8 mois pour trouver un nouveau travail. Elle posa le courrier qui leur était adressé sur la table, entre le pot de confiture et le beurre fondu, et elle abaissa la barrière du 9h07. « Je vais perdre Violette. » C'est la première chose à laquelle Philippe pensa quand il lut la missive. Plus rien ne la retiendrait désormais. Leur toit et leur travail les liaient encore, il ne savait même pas pourquoi. Il les liait par un fil si fin qu'il en était presque invisible. À part la chambre de Léonine, dont la porte était toujours fermée, il ne leur restait rien en commun. En perdant la barrière, elle partirait pour toujours avec le vieux du cimetière. Il aperçut une femme parler à Violette à travers la fenêtre de la cuisine. Il ne la reconnut pas tout de suite. Il pensa d'abord à une de ses maîtresses venues le balancer, mais l'idée l'effleura à peine. les femmes qu'il fréquentait n'étaient pas du genre à être jalouses. Il ne prenait aucun risque. Il se salissait Violette, mais ne prenait aucun risque. Cependant, il vit que Violette pâlissait au fur et à mesure que cette femme lui parlait. Il sortit aussitôt et se retrouva nez à nez avec l'institutrice de Léonine. Comment s'appelait-elle déjà ? Bonjour, monsieur Toussaint. Bonjour. Elle était pâle, elle aussi. Elle semblait bouleversée. Elle lui tourna le dos et partit d'un pas rapide. Le 9h07 passa. Philippe vit quelques visages aux fenêtres des compartiments et repensa à Léonine quand elle les saluait. Dans un automatisme silencieux, Violette remonta la barrière et dit à Philippe « Geneviève Magnan s'est suicidée ». Philippe se rappela la dernière fois qu'il était passé devant chez Magnan 15 jours auparavant. L'estafette des flics, les femmes en robe de chambre sous les réverbères. Elle s'était sans doute suicidée après l'avoir vue. Il avait pleuré devant elle. « Je n'aurais jamais fait de mal à des gosses !» Était-ce le poids de la culpabilité qui l'avait poussé vers la mort ? Violette ajouta « S'il te plaît, fais en sorte qu'elle ne soit pas enterrée dans le même cimetière que Léonine. » Philippe promit. Quitte à la déterrer de ses propres mains, il promit à Violette. Violette répéta plusieurs fois « Je ne veux pas qu'elle salisse la terre de mon cimetière. » Philippe ne prit pas de douche ce matin-là. Après s'être lavé les dents à la hâte, il enfourcha sa moto et partit, laissant Violette derrière lui, à garde, debout devant une barrière qu'elle n'aurait pas abaissée avant 2 bonnes heures.